Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Au cours du dernier mois, ce sont près de 680 migrants qui sont morts noyés en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Italie. C'est l'un des chiffres les plus élevés jamais enregistrés sur une aussi courte période et que beaucoup attribuent à la féroce politique de Matteo Salvini pour fermer les ports aux bateaux des ONG. C'est un génocide, accuse même le maire de Palerme en Sicile, l'un des plus farouches opposants au ministre de l'Intérieur. Ouvertement pro-migrant, il a fait de sa ville l'une des plus ouvertes du pays en termes d'accueil, comme le prouve la foire d'art contemporain Manifesta. Reportage à Palerme, Cécile Debarge.
Dans le grand parc qui borde le front de mer de Palerme, plusieurs groupes sont assis en tailleur et tentent tant bien que mal de mettre au point leur stratégie avant que le maître du jeu ne vienne leur signifier la fin du temps réglementaire.
Alors vous allez choisir l'un d'entre vous pour raconter au groupe comment vous avez réussi à surmonter les obstacles et atteindre votre rêve.
Le maître du jeu est un jeune réfugié qui fait partie du réseau SPRAR de la ville de Palerme, c'est-à-dire un réseau de projets d'accueil à petite échelle. Devant lui, des dizaines de joueurs qui découvrent la roue des rêves, un jeu inventé par les migrants. Chacun a un rêve de départ, puis il tire des cartes qui représentent des obstacles. Avec ses camarades, il va devoir imaginer comment surmonter les difficultés pour atteindre son rêve. Un jeu symbolique, explique Valentina Castagna, professeure à l'Université de Palerme, qui a suivi de près le projet dans le cadre de son travail Stories in Transit.
C'est une idée des jeunes et de leur professeur d'italien, Clelia Bartoli. Ils avaient exprimé le souhait de faire quelque chose, aussi bien pour changer un peu le regard qu'on peut avoir sur les réfugiés en Europe, et particulièrement en Sicile, mais aussi pour créer des opportunités de travail.
À quelques mètres de là, Ibrahim tient un petit stand où l'on peut acheter les jeux de société créés par les migrants. Un moyen pour eux de gagner un peu d'argent, comme l'explique ce Gambien de 19 ans, arrivé à Palerme en 2016.
Le projet s'appelle Jacaranda. Il a été initié par un groupe de jeunes Africains, des Gambiens, des Sénégalais, des Guinéens ou bien des Ghanéens. En fait, nous étions tous au centre d'accueil quand un jour, un de mes amis est venu nous voir et nous a dit qu'on était tous là à rien faire et qu'il faudrait se mettre à créer quelque chose. D'autant plus que nous sommes nombreux à avoir des compétences manuelles, comme l'ébénisterie par exemple.
Les jeux ont été construits en papier, en carton ou en bois, comme ces dés empaquetés dans des sacs de tissu africain.
Voilà, ce sont des cubes. On les a d'abord achetés au charpentier, ensuite on les a poncés et puis on a collé sur chaque face des images pour pouvoir raconter une histoire. Vous lancez les dés, comme ça, et ensuite vous devez inventer une histoire à partir de l'image qui est sortie et chacun continue l'histoire de l'autre.
Le jeu est surtout un prétexte pour favoriser l'échange, explique Valentina Castagna.
C'est d'abord un moyen d'être ensemble. On construit ainsi une cohésion de groupe en jouant ou en blaguant à travers la narration, ce qui est toujours un moment d'échange important, aussi bien dans leur culture que dans la nôtre.
Ces jeux, inventés dans les centres d'accueil, sont présentés dans le cadre de la foire d'art contemporain Manifesta, qui a pris ses quartiers en Sicile depuis la fin du mois de juin. L'idée était de provoquer la rencontre entre palermitains et réfugiés autour d'une démarche ludique ou artistique. À l'abri de la chaleur, Bakary, lui, mène sa deuxième interview de la journée, sauf que cette fois, c'est lui qui pose les questions aux visiteurs, et il leur demande exactement la même chose que ce qu'on lui demande en boucle depuis qu'il est arrivé en Sicile, il y a 1 an et 7 mois.
Quel âge as-tu ? Et quand je leur disais mon âge, 17 ans, alors ils me demandaient « T'es bien sûr ?» ou encore « Combien ai-je dépensé pour venir ici ? Depuis combien de temps je suis en Europe ? À quoi faire ? Ou bien, est-ce que tu as bien donné tes empreintes digitales ?»
L'occasion pour ce Gambien de 18 ans de discuter du racisme en Italie et des dernières décisions de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur. L'occasion aussi de s'exercer au métier de journaliste, le rêve de Bakary.
S'il n'y avait pas ce projet, je n'aurais pas vraiment accès à ces gens pour pouvoir leur parler.
C'est justement l'objectif de cette intervention mi-artistique, mi-sociologique, provoquer des rencontres ou des situations difficiles, voire impossibles dans le quotidien. Yodit Abraha est la responsable du projet SPRAR pour la mairie de Palerme.
Cette interview inversée, c'est une idée à laquelle on a réfléchi avec les jeunes. On a souhaité proposer une information alternative sur l'immigration. Notre propos, c'était de se dire comment réagiraient les Européens s'ils devaient répondre aux mêmes questions que l'on pose en permanence aux réfugiés. Comme s'ils étaient tous pareils, tous dépositaires de la même histoire.
Sous un auvent blanc, un attroupement se crée peu à peu. Un grand rectangle de tissu est étendu par terre.
Certains artistes de Manifesta ont même créé des ateliers autour du thème de la frontière. On va par exemple coudre un immense drapeau ensemble pour réfléchir au fait qu'en ce moment, on a tendance à oublier que derrière un drapeau ou une nation, il y a des êtres humains.
Sotto le bandiere ci sono le persone.
Le cours de djembé organisé par les migrants couvre peu à peu la voix de Yodit Abraha. Leurs élèves, des Siciliens qui s'essaient souvent pour la première fois à l'instrument, ont encore quelques progrès à faire. Ils auront jusqu'au mois de novembre pour participer à de nouveaux cours, date de la fin de Manifesta.
C'est un plaisir d'aller au service militaire. Chacun sait qu'à 20 ans, on n'a rien d'autre à faire. Que c'est le pied de marche comme un métronome. Que c'est la discipline qui vous fait un homme.
Cela fait 21 ans que le service militaire n'existe plus en France. Abandonné sous l'ère Chirac en 1997, il est aujourd'hui de retour avec Emmanuel Macron. Désormais, ce ne sont plus juste les garçons qui feront leur service, mais également les filles de 16 à 25 ans. Un service très largement raccourci puisqu'il ne durera que 15 jours. Ce CSU, imposé à tous, se distingue d'ailleurs du service civique qui connaît un succès croissant comme dans les autres pays européens ayant aboli le service militaire. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors d'abord, quels sont les enjeux de ce service national universel en France ?
Le défi évoqué par Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle est celui de l'intégration sociale de la jeunesse. Une intégration passant par le brassage de l'ensemble d'une classe d'âge, soit en France environ 750 000 personnes, comme le faisait jadis le service militaire. D'où la nécessité de rendre ce service obligatoire pour tout le monde. Le problème est le coût du dispositif. Un dispositif obligatoire d'une durée de 6 mois ou même de 3 mois eût été insupportable pour les finances publiques, ce qui explique la limitation à 15 jours de la première phase dite de cohésion du SNU qui prévoit un hébergement collectif dans les internats de l'éducation nationale ou les centres de logement étudiants. Une deuxième phase de 15 jours, plus personnalisée, se fera en petits groupes dans le cadre d'associations. Enfin, une troisième phase, cette fois facultative, offrira aux moins de 25 ans la possibilité de s'engager pour une période de 3 à 12 mois dans diverses activités relevant de la défense, de l'environnement, du social.
Mais vous pouvez dire, Daniel, quelle est la différence avec le service civique instauré en 2010 ?
Sur la troisième phase du service universel, qui méritera d'être précisée à l'issue d'une période de consultation nationale à l'automne, la différence par rapport au service civique volontaire semble pour l'instant tenir aux activités à caractère militaire. Mais fondamentalement, les objectifs des deux dispositifs sont différents. Intégration sociale pour le SNU, qui doit donner à la jeunesse des valeurs communes, insertion professionnelle pour le service civique. De fait, on observe que 75% des jeunes ayant eu un parcours de service civique de 6 à 12 mois ont trouvé un emploi et une formation. Plus de 125 000 jeunes ont suivi en 2017 un tel parcours pour un coût budgétaire d'environ 400 millions d'euros. Le service universel, pour ce qui est du mois obligatoire pour tous, devrait coûter, estime-t-on, 1,6 milliard, 4 fois plus.
Et qu'existe-t-il en la matière chez nos voisins ?
Une majorité de pays a aboli depuis 20 ans le service militaire obligatoire. Partout sont apparues des formes de service civique, en particulier en Allemagne, où 180 000 citoyens, pas forcément des jeunes d'ailleurs, s'engagent chaque année dans l'une des formes de service volontaire dans le domaine du social, de l'écologie, du développement. En Italie, le service civil national concerne de 35 à 40 000 jeunes de 18 à 28 ans par an. Des populations bien plus importantes sont touchées dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, le Young Volunteer Service concerne 200 000 jeunes, mais pour des activités d'une durée parfois réduite. En Suède, dans le cadre des mouvements de jeunesse, plus de 600 000 jeunes sont engagés dans des activités bénévoles.
Alors, tout se fait sur la base du volontariat ?
Absolument, rien n'est obligatoire. Le service national universel envisagé en France n'a donc aucun équivalent en Europe. À cette réserve près que plusieurs pays de l'UE conservent un système de conscription militaire auquel la jeunesse ne peut se soustraire.
Et dans quel pays ce service militaire reste-t-il en vigueur ?
Alors, quatre pays ont maintenu un service militaire obligatoire. Il dure 6 mois en Autriche, n'est obligatoire que pour les hommes et se transforme en service civil de 9 mois pour les objecteurs de conscience. En Finlande, la traditionnelle méfiance à l'égard du voisin russe a fait fait maintenir un service militaire de 5 mois et demi. Pour les mêmes raisons, l'Estonie appelle sous les drapeaux pour 8 à 11 mois. Enfin, la Grèce, toujours soucieuse de se protéger des agissements de la Turquie, intègre dans l'armée tous les jeunes hommes pendant 9 à 12 mois. Et puis, signalons le cas du Danemark, où depuis quelques années, le service militaire de 4 mois est devenu facultatif. Pour une raison simple, les engagés volontaires sont désormais plus nombreux que les besoins de l'armée. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé en Suède et qui a poussé ce pays à rétablir la conscription.
Vous pouvez être plus précis, Daniel ?
Stockholm avait supprimé en 2010 le service obligatoire. Or, en 2015, les aspirants soldats n'ont été que 1300 contre un besoin annuel de 4000. L'agressivité diplomatique de la Russie inquiétant les Suédois eux aussi, un service militaire obligatoire de 9 à 12 mois a été rétabli en 2017, même si les conscrits sont sélectionnés en fonction des besoins. 2 ans auparavant, une conscription de 9 mois avait été également rétablie dans la République balte de Lituanie. Mais l'originalité de la nouvelle conscription suédoise est qu'elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. En conclusion, 7 pays européens sur 28 ont recours aujourd'hui à la conscription militaire. Mais le projet français de conscription civile, même limité, reste unique.
Daniel Vigneron de myeurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Et oui, venu tout droit d'Asie par avion, par cargo, le moustique tigre s'est installé en France. Il se plaît tout particulièrement en Alsace, dans l'est du pays. Ennemi à abattre, l'insecte rayé transporte potentiellement avec lui le virus de la dengue ou du chikungunya. Alors pour le combattre, les autorités sanitaires de 3 régions européennes, le Bade-Württemberg, la Suisse, le Grand Est français, ont décidé de renforcer leurs échanges grâce à un tout nouveau réseau d'experts baptisé Tiger. Et c'est le reportage de Corinne Fugler.
On l'appelle le moustique tigre, mais il est plutôt zébré, de blanc et de noir. Bruno Mathieu le connaît bien, il est entomologiste à l'Institut de parasitologie et de pathologie tropicale de Strasbourg.
C'est un moustique qui est extrêmement agressif, qui pique tout au long de la journée et ça va être une vraie calamité si on le laisse s'installer.
En Allemagne, le premier Aedes albopictus a été repéré en 2007. Il serait arrivé bien plus tard en Alsace, dans la banlieue de Strasbourg, où le premier spécimen a été signalé en 2014. Le moustique n'est encore contaminé aucun habitant du Rhin supérieur, mais les autorités sanitaires restent vigilantes.
Nous avons mis en place un réseau de surveillance commun qui fonctionne déjà depuis le début mai. Il est relevé à intervalles réguliers, nous échangeons les données. Donc nous travaillons de plus en plus ensemble. Nous allons développer des messages et des outils de communication dans les deux langues à certains moments un peu critiques où les populations de moustiques vont se développer de manière importante. Ces messages pourront être diffusés en même temps, au même moment, dans les deux langues, dans les 3 pays de la région Rhin supérieure.
Car le moustique tigre est en mesure de s'installer durablement sur les rives du Rhin. Depuis 2010 déjà, plusieurs cas dits autochtones, de dengue ou de chikungunya, ont été constatés dans le sud de la France. Pour surveiller l'expansion de ce moustique, c'est bien simple, les chercheurs utilisent des pièges pondoirs. Une centaine de pièges pondoirs ont été disséminés dans le département du Bas-Rhin. C'est Christelle Binder qui dirige le syndicat de lutte contre les moustiques dans ce secteur.
C'est un petit seau noir dans lequel on va mettre donc de l'eau. Le but, c'est d'attirer les femelles moustiques tigres pour qu'elles puissent pondre dans ce piège. On va rajouter un petit polystyrène qui va servir de support de ponte. Donc elle va pondre sur ce petit polystyrène. Et nous, on va récupérer ce polystyrène toutes les 2 semaines pour vérifier s'il y a présence ou non du moustique.
Côté allemand, dans le Bade-Württemberg, les mêmes pièges pondoirs sont disséminés sur les aires de repos de l'autoroute A5. Cet axe particulièrement fréquenté longe quasiment le Rhin.
Sur la A5, l'autoroute qui vient du sud, donc là ils ont un réseau de pièges pondoirs tout le long de l'autoroute. Et l'année dernière par exemple, ils ont détecté 200 endroits avec le moustique tigre le long de cette aire d'autoroute.
Et les Suisses, eux aussi, surveillent leurs axes de transit. L'Union européenne a mis 800 000 euros dans ce projet Tiger qui doit permettre de recenser d'ici 2020 les différentes variétés de moustiques présentes dans ces 3 régions riveraines du Rhin, cette zone que l'on appelle le Rhin supérieur. Le Schnockelor, le trou à moustique, c'est l'un des surnoms de l'Alsace, un surnom mérité pour Thomas Pauline Salomé, croisée place Kléber à Strasbourg.
Du côté de chez moi, il y en a pas mal. Moi, après, je les attire beaucoup, donc c'est vrai que c'est un peu contraignant, surtout en été. Je me barricade et je mets plein de prises anti-moustiques.
Est-ce que vous attirez les moustiques ?
Oui, parce que je pense que j'ai un sang sucré et du coup, oui, j'attire pas mal les moustiques.
Oui, ça gratte.
Je pense que j'ai une peau à moustiques.
Le moustique tigre, est-ce qui vous fait peur ?
Pour moi, c'est le même type de moustique qu'on a en France, comme d'habitude, quoi.
J'ai entendu qu'il y en avait en ce moment, surtout en Alsace, mais j'y pense pas parce que sinon on sort plus. Hein.
L'Eurométropole de Strasbourg a d'ailleurs mis en place une veille pour informer ses élus et pour recenser d'éventuels spécimens de moustiques tigres. La conseillère écologiste Françoise Schetzel porte le dossier dans cette collectivité qui rassemble une trentaine de communes de tailles très diverses.
Nous avions une réunion avec les maires des différentes communes. Et il y a eu quand même un point qui a été très mis en avant, c'est toutes les questions qui leur étaient posées par leurs concitoyens sur les moustiques tigres. Questions évidemment auxquelles ils ne sont pas tous capables de répondre. Notre rôle à l'Eurométropole, c'est de soutenir et de leur donner des noms de personnes ressources, voire des outils pédagogiques qui leur permettent de répondre à leurs concitoyens.
Le moustique tigre voyage volontiers en avion, mais quand il doit utiliser ses propres ailes, il préfère se limiter à un tout petit périmètre. Pour éviter son expansion et aussi celle de ses cousins européens, il faut donc assécher dans les jardins, les coupelles, les arrosoirs, les vieilles bâches remplies d'eau, des milieux dans lesquels cet insecte piqueur adore déposer ses œufs. C'est le premier message sanitaire que les élus et les experts essaient de faire passer auprès du grand public.
Ce n'est pas la première fois et sûrement pas la dernière qu'une victoire sportive est utilisée en politique. On parle là de la victoire de la Croatie sur le Danemark, ce qui lui a permis d'accéder en quart de finale du Mondial. Et ce n'était pas arrivé depuis 20 ans. La victoire a donc été dignement célébrée par les supporters de l'équipe au damier, mais aussi par les dirigeants politiques croates qui espèrent bien en profiter pour doper leur cote de popularité. Simon Rico.
Depuis lundi soir, la Croatie a un nouveau héros, Daniel Subasic, le gardien de l'équipe nationale de football, qui a brillé pendant l'épique séance de tirs au but face au Danemark, stoppant pas moins de 3 pénaltys adverses. Peu connu dans son propre pays, le portier du FC Monaco a séduit tant par son sang-froid dans les buts que par son humilité devant les micros. Un pénalty, c'est la loterie, s'est-il contenté de déclarer aux journalistes qui l'interrogeaient sur son exploit. Mais le goal croate est aussi devenu une star de l'autre côté de la frontière, en Serbie. Plusieurs journaux de Belgrade ont titré « C'est un Serbe qui a emmené la Croatie en quart de finale », une allusion aux origines serbes de son père. En réponse, les médias conservateurs de Zagreb se sont empressés de préciser que Daniel Subasic avait plusieurs fois déclaré qu'il était croate et catholique, que la Croatie était sa patrie et Zadar sa ville. Cette qualification a en tout cas fait exulter tout le pays. En effet, l'équipe au damier n'avait plus remporté un seul match à élimination directe depuis son fabuleux parcours en France au Mondial 98. Et pourtant, quand Luka Modric a manqué son pénalty à la 116e minute, les supporters croates ont bien cru que la malédiction allait de nouveau s'abattre sur leur équipe. Cette victoire a aussi fait du bien au sommet de l'État, alors que le Premier ministre Andrei Plenković et la très droitière présidente Kolinda Grabar-Kitarović s'opposent depuis des mois. La chef de l'État s'est d'ailleurs invitée dans les vestiaires du stade de Nijni Novgorod, mais les photos la montrant en train de féliciter les joueurs ont vite été tournées en dérision sur les réseaux sociaux. Certains médias n'ont pas manqué de rappeler qu'Angela Merkel faisait pareil pour booster sa popularité. Alors que la Mannschaft s'est faite éliminer dès les poules, la chancelière allemande fait face à une crise politique sans précédent. Comme quoi, il ne faut pas trop compter sur le football pour espérer redorer son blason.
À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment continuer de nous suivre sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. À demain.